Chapitre 11. Ce fut son dernier jour de pathétique. Depuis, il se corrigea de ses peurs superstitieuses et ne s'effraya pas de rencontrer des chiens galeux dans la campagne. Avec la volonté obstinée de s'instruire en toutes choses, il apprit la géographie et ne plaça plus le climat du Brésil sous la latitude de New York, à grand renfort de palmiers et de citronniers, comme nous l'avons vu faire dans sa lettre à Henri. Il quitta l'amour des petites bottes évasées à la Louis XIII et leur préféra une jambe étroite et des genoux non crochus. Et les manteaux de pourpre même, qu'il prodiguait si volontiers dans son style et dont il tirait de si abondantes métaphores, lui semblèrent à la fois moins beaux que les torses qu'il pouvait recouvrir. La fureur de Venise se passa également, ainsi que la rage des lagunes et l'enthousiasme des toques de velours à plumes blanches. Il commença à comprendre que l'on pourrait tout aussi bien placer le sujet d'un drame à Astrakhan ou à Pékin, pays dont on use peu en littérature. La tempête aussi perdit considérablement dans son estime. Le lac, avec son éternelle barque et son perpétuel clair de lune, lui parurent tellement inhérents au Kipsec qu'il s'interdit d'en parler, même dans la conversation familière. Quant aux ruines, il finit presque par les prendre en haine, depuis qu'un jour, dans une vieille forteresse, rêvant tout couché sur les ravelinelles sauvages et regardant une magnifique clématite qui entourait un lit de colonnes brisées, il avait été dérangé par un marchand de suif de sa connaissance, lequel déclara qu'on aimait à promener en ces lieux parce que ça rappelait des souvenirs et déclama aussitôt une douzaine de vers de Madame Desbordes-Valmore, écrivit ensuite son nom sur la muraille et s'en alla enfin l'âme pleine de poésie, disait-il. Il dit un adieu sans retour à la jeune fille chargée de son innocence et au vieillard accablé de son air vénérable, l'expérience lui ayant vite appris qu'il ne faut pas toujours reconnaître quelque chose d'angélique dans les premières ou de patriarcal dans les secondes. Naturellement peu mulocolique, la bergère des Alpes, dans son chalet, lui semble la chose du monde la plus commune. N'y fait-elle pas ses fromages, tout comme une basse normande? Il se réconcilia cependant avec les bergers, ayant vu au fond de la Bretagne un chevrier couvert d'une peau de loup et avec la belle mine du plus affreux gredin qui soit sur la terre. Il relut ce qu'il pouvait comprendre des bardes et des trouvères, et il s'avoua franchement qu'il fallait être drôlement constitué pour trouver tout cela sublime, en même temps néanmoins que les beautés réelles qu'il y revit le frappèrent davantage. En somme, il fit bon marché de tous les fragments de chants populaires, traductions de poèmes étrangers, hymnes de barbares, odes de cannibales, chansonnettes d'esquimaux et autres fatras inédits dont on nous assomme depuis 20 ans. Petit à petit même, il se défit de ces prédilections niaises que nous avons malgré nous pour des œuvres médiocres, goûts dépravés qui nous viennent de bonne heure et dont l'esthétique n'a pas encore découvert la cause. Donc, pour se guérir de cette manie, il s'abandonna à l'étude d'ouvrages offrant des caractères différents du sien, une manière de sentir écartée de la sienne, et des façons de style qui n'étaient pas du genre de son style. Ce qu'il aimait à trouver, c'était le développement d'une personnalité féconde, l'expansion d'un sentiment puissant qui pénètre la nature extérieure, l'anime de sa même vie et la colore de sa teinte. Or, il se dit que cette façon toute subjective, si grandiose pourtant, pourrait bien être fausse parce qu'elle est monotone, étroite parce qu'elle est incomplète. Et il rechercha aussitôt la variété des tons, la multiplicité des lignes et des formes, leur différence de détails, leur harmonie d'ensemble. Auparavant, sa phrase était longue, vague, enflée, surabondante, couverte d'ornements et de ciselures, un peu molle au debout. Il voulut lui donner une tournure plus libre et plus précise, la rendre plus souple et plus forte. Aussi passait-il alternativement d'une école à une autre, d'un sonnet à un dithyrambe, du dessin sec de Montesquieu, tranchant et luisant comme l'acier, aux traits saillants et fermes de Voltaire, purs comme du cristal, taillés en pointe comme un poignard, de la plénitude de Jean-Jacques aux ondulations de Chateaubriand, des cris de l'école moderne aux dignes allures de Louis XIV, des naïvetés libertines de Brantôme aux âpretés théologiques de Daubigné, du demi-sourire de Montaigne au rire éclatant de Rabelais. Il eût souhaité reproduire quelque chose de la sève de la Renaissance, avec le parfum antique que l'on trouve au fond de son goût nouveau dans la prose limpide et sonore du XVIIe siècle, y joindre la netteté analytique du XVIIIe, sa profondeur psychologique et sa méthode, sans se priver cependant des acquisitions de l'art moderne, et tout en conservant bien entendu la poésie de son époque, qu'il sentait d'une autre manière et qu'il élargissait suivant ses besoins. Il entra donc de tout cœur dans cette grande étude du style. Il observa la naissance de l'idée en même temps que cette forme où elles se font, leur développement mystérieux, parallèles et adéquats l'un à l'autre, fusion divine où l'esprit, s'assimilant la matière, la rend éternelle comme lui-même. Mais ces secrets ne se disent pas, et pour en apprendre quelques-uns, déjà il faut en savoir beaucoup. À force de contempler les belles œuvres dans la bonne foi de son cœur, de se pénétrer du principe qui les avait produites, et de les regarder abstractivement en elles-mêmes quant à leur beauté, puis relativement à la vérité qu'elles manifestent et qu'elles exposent quant à leur puissance, il comprit ce que c'est que l'originalité et le génie, et il eut un dédain complet de toutes les poétiques du monde. Si chaque artiste est appelé à reproduire ce qu'il y a de général dans le monde et dans la nature, suivant le caractère particulier de son talent et sous une forme concrète unique, sans laquelle la spécialité de l'œuvre n'existerait pas, si chaque idée réclame un moule qui soit à sa taille, si chaque passion, suivant l'homme où elle se produit, rend un son différent, et si le cœur humain est un immense clavier que d'octave en octave et d'accords en dissonance le penseur doit parcourir, depuis les intonations les plus sourdes jusqu'aux plus aiguës, si chaque feu a sa flamme, chaque voix son écho, chaque angle entrant son angle sortant, si le fourreau est bien fait pour le glaive et le langage pour la pensée, comment niveler toutes ces hauteurs différentes, rapprocher ce qui doit être écarté, appareiller ce qui n'a pas de rapport, et vouloir contenir dans les mêmes limites, habillés du même costume, enfermés sous la même forme, toutes ces différences essentielles d'origine, de nationalité, de siècle, d'époque. L'étincelle qui sort de la pierre, la pâleur de la lune, la rougeur du soleil, les étoiles qui scintillent, les comètes qui flamboient, tout cela, c'est la lumière, essence unique, qui a des modalités différentes. Ainsi, chaque œuvre d'art a sa poétique spéciale, en vertu de laquelle elle est faite et elle subsiste. Et celles qui sont à venir naîtront à leur tour, après avoir été portées dans des germes qui ne sont pas éclos, étoiles différentes d'un autre monde, portions de la grande lumière dont le foyer est au sein de l'inconnu. Et vous, vous voulez régler ce qui est la règle suprême, régir ce qui est la loi même, répartir au gré d'une symétrie extérieure toutes ces lueurs diverses, arrêter la création, la saisir par tous ses côtés, mesurer son avenir, compter tous les astres, peser l'infini. Arriver à cette haute impartialité critique qui lui semblait le vrai sens de la critique et qui doit au moins en être la base, il renonça au parallèle où l'on fait de si douces antithèses et où, dénaturant d'abord les deux termes de comparaison, on arrive invariablement à en obtenir un regard et un résultat faux comme elle. Alors il découvrit des beautés ignorées chez ceux qu'il n'aimait pas, et des faiblesses singulières à des œuvres qu'il croyait sans reproche. Il se fortifia dans son aversion pour la littérature académique et universitaire, non plus à cause qu'il était d'une école opposée, mais au contraire, par amour des grands maîtres que dégrade un enthousiasme inintelligent et qu'avilissent toutes ces admirations écourtées. Les théories, les dissertations, les réclamations n'ont du goût, les déclamations contre la barbarie, les styles, systèmes sur l'idée du beau, les analogies des anciens, toutes les injures que l'on s'est dit pour défendre le pur langage, toutes les sottises qui se sont écrites en discutant sur le sublime, ne lui servirent plus qu'à lui faire connaître historiquement l'esprit différent des écoles et des époques dans toute leur vanité risible, utiles encore pour nous par l'excès de leur ridicule même. Il croyait bien, pour l'avenir, laisser quelque inaltérable monument, et voilà que ce qu'ils ont édifié à grands frais a plus vite disparu que leur nom, et n'est plus bon qu'à nous rappeler l'instant fugitif où ils ont vécu. À mesure qu'il avança dans l'histoire, il y découvrit tout à la fois plus de variété, plus d'ensemble. Ce qu'elle a, au premier coup d'œil, de heurté, de confus, disparut graduellement, et il entrevit que le monstrueux et le bizarre avaient aussi leurs lois, comme le gracieux et le sévère. La science ne reconnaît pas de monstre, elle ne maudit aucune créature, et elle étudie avec autant d'amour les vertèbres du serpent boa et les miasmes des volcans que le larynx des rossignols et que la corolle des roses. La laideur n'existe que dans l'esprit de l'homme. C'est une manière de sentir qui révèle sa faiblesse. Lui seul est capable de la concevoir et de la produire. Et sans cette infirmité ou cette faculté, pourquoi donc se pâmerait-il d'aise devant la beauté quand il la rencontre? Mais la nature en est incapable. Tout en elle est hors d'harmonie. Les rochers arides sont beaux, les champs couverts de blé sont beaux. Belle est la tempête, belles sont les forêts, les araignées ont leur beauté, les crocodiles ont la leur, comme les hiboux, comme les singes, comme les hippopotames et les vautours. Couchés dans leur antre, enfouis dans leur fange, hurlant sur leur proie, sautant dans leurs forêts, nageant dans leurs océans, ne sont-ils pas comme les cigognes qui volent dans les cieux, les cavales qui bondissent dans les prairies, tous sortis du même sein, chantant la même cantique, retournant au même néant, rayons du même cercle qui convergent vers le même centre. Il tâchait de saisir la même harmonie dans le monde moral, et sans s'effrayer de rien, il étudiait le criminel, l'ignoble, le grossier, l'obscène, toutes ces nuances de ce qui nous offre ou nous dégoûte, et il les posait en face du grand, du digne, du vertueux et de l'agréable, pour voir comment ils en diffèrent et admirer leur point de contact quand il y en a. De même que le poète, en même temps qu'il est poète, doit être homme, c'est-à-dire résumer l'humanité dans son cœur et en être lui-même une position quelconque, il demandait à l'œuvre d'art sa signification générale en même temps que sa valeur plastique et intrinsèque. Ce qui l'amena à étudier simultanément l'humanité dans l'art et, je dirais, presque l'art dans l'humanité, car il y en a un dans ces retours périodiques des mêmes crises et des mêmes idées, dans cette combinaison de ce que l'on appelle effet et de ce qu'on appelle cause. Si bien qu'on jurerait que tout cela a été coordonné d'avance, puisque c'est comme un organisme complet qui va se développant toujours et fonctionnant sans cesse sous des apparences régulières. Dès lors, à travers le costume, l'époque, le pays, il cherchait l'homme. Et dans l'homme, il cherchait le cœur. Il allait de la psychologie à l'histoire, de l'histoire il redescendait à l'analyse, et dans cet ensemble qui fait un siècle et qui a sa physionomie à lui, résultat de toutes les parties qui l'ont composé, il tâchait de retrouver les espoirs partiels qui avaient formé l'espoir d'une génération, les amertumes privées qui lui avaient donné l'air si sombre, toutes les joies qui l'avaient rendu si insouciant des graves questions, les énergies qui avaient fait sa force, les héroïsmes secrets qui l'avaient rendu héroïque. Chaque époque perdit pour lui quelque chose de la couleur tranchée sous laquelle on a coutume de l'envisager. Ce que son unité offre de sec et d'artificiel fit place à un caractère plus ondoyant et plus divers, qui, atténuant les différences que l'on trouve entre les époques, en expliquait davantage les transitions de l'une sur l'autre, leurs origines et leurs conséquences. Ainsi qu'il découvrait quelquefois une tendresse exquise dans des cœurs farouches et d'étranges cruautés dans les regards qui semblaient les plus tendres, extrayant le comique des choses sérieuses ou concevant de suite quelques drames à l'audition d'une phrase bien simple, il perdit, en fait d'histoire et de critique, beaucoup d'opinions toutes faites d'adages commodes et de convictions communes. Mais la postérité, qui contemple tout de profil et qui veut des opinions bien nettes pour les faire tenir dans un mot, n'a pas le temps de songer à tout ce qu'elle a repoussé, oublié, omis. Elle a saisi seulement les traits saillants des choses, puis, au risque d'incohérence ou d'absurdité, elle les a réunis sous un seul trait et fondus dans une seule expression. Et Jules faillit tomber dans l'excès contraire. À force de voir chaque jour la fausseté des jugements de la foule, la niaiserie de ses admirations et la bêtise de ses haines, il aurait admiré ce qu'elle méprise et détesté ce qui la charme, s'il n'y avait pas vu, le plus souvent, un fond d'utilité pratique pour l'avenir à toutes les idées plus ou moins justes qu'elle se fait sur le passé. Ces idées ont bien leur importance en elles-mêmes, puisqu'à leur tour elles produisent des faits. Qu'importe que 93 ait mal compris Sparte, pourvu qu'il ait cru l'imité. Quand il eut un peu étudié le 15e siècle, il y vit autre chose que des collerettes à la fraise, de même qu'il pensait au 17e sans songer aux grandes perruques et au 18e sans n'y regarder toujours que les talons rouges et les marquises. Il aimait, au milieu du grave siècle de Louis XIV, entendre rire Saint-Amand et Chaulieu, avoir Gassendi se promener devant Port-Royal. Comme il songeait encore que le siècle de Louis XV, à qui le reproche sans cesse sa légèreté, son athéisme et ses amours folâtres, avait commencé par la Bruyère et par le Sage, avait engendré Saint-Preux et Werther, et s'était clos par René. Époque de scepticisme, sans doute, que celle qui a enfanté des enthousiasmes nouveaux, donné la liberté à des mondes et affranchi l'intelligence. Quand, par exemple, Jules apprenait que l'efféminé Henri III envoyait de Pologne à Mademoiselle de Valençay des lettres écrites avec son sang, et que Néron, au moment de mourir, pleurait la perte d'une amulette que lui avait donnée sa mère, ou bien que Turenne avait peur des ténèbres, et le maréchal de Saxe horreur des chats, il s'aurait été tout étonné, plein d'admiration ou de pitié, mais l'étonnement ne durait guère, l'admiration se faisait compréhension et la pitié indulgence. Aussi était-il en quête du courage qu'avaient montré les lâches, de la pusillanimité qu'avaient eu les braves. Il recherchait la vertu pratiquée par les vicieux, et il riait au crime commis par les bons. Cette égalité continuelle de l'homme, quoi qu'il en ait et partout où il se trouve, lui semblait une justice qui rabaissait son orgueil, le consolait de ses humiliations intérieures, lui rendait enfin son vrai caractère d'homme et le replaçait à sa place. Le monde étant devenu pour lui si large à contempler, il vit qu'il n'y avait, quant à l'art, rien en dehors de ses limites, ni réalité, ni possibilité d'être. C'est pourquoi le fantastique, qui lui semblait autrefois un si vaste royaume du continent poétique, ne lui en apparut plus que comme une province. Il comprit qu'on ne fera jamais rien de beau en inventant des animaux qui ne sont pas, des plantes qui n'existent point, en donnant des ailes à un cheval, des queues de poisson à des corps de femmes. Existence impossible, révélation d'un type insaisissable, rêve sans corps qui, n'offrant qu'une face selon le vague désir qui les a créés, demeurent isolés les uns des autres dans leur immobilité et leur impuissance. Il faut l'accepter, cependant, ce surnaturel qui se pose au début de l'art d'un peuple et que l'on retrouve à sa fin, comme deux figures mystérieuses sculptées sur son berceau et sur son tombeau. Les premières productions de la main de l'homme en étaient marquées. Il coexiste dans ses œuvres les plus maîtres. Il se transforme et s'infiltre encore dans ses dernières. D'abord, il éclate dans l'Inde, qui ne s'en est pas dégagée. Il s'humanise dans la Grèce, passe dans l'art romain. Le recréé de caprices folâtres où enflamme sa sensibilité devient terrible au Moyen-Âge, grotesque à la Renaissance, et se mêle enfin au vertige de la pensée dans les âmes de Faust et de Manfred. C'était sans doute pour exprimer quelque chose que se taillaient dans le granit ces sphinx monstrueux qui restent couchés sur le sable des déserts. Vers quel horizon regardent du fond de leur pagode les yeux béants des idoles? Que signifie leur sourire d'ivresse? Et pourquoi prendre tous ces bras nombreux qui leur pendent le long du corps? On les contemplera longtemps et pas un homme ne saura ce qu'elles veulent dire. N'arrive-t-il pas, à certains moments de la vie de l'humanité et de l'individu, d'inexplicables élans qui se traduisent par des formes étranges? Alors le langage ordinaire ne suffit plus. Ni le marbre ni les mots ne peuvent contenir ces pensées qui ne se disent pas, assouvir ces étranges appétits qui ne se rassasient point. On a besoin de tout ce qui n'est pas, tout ce qui est devient inutile. Tantôt, c'est par amour de la vie, pour la doubler dans le présent, l'éternité au-delà d'elle-même. Tantôt, c'est par convoitise de l'infini, pour y retourner plus vite, fureur de la joie ou caprice du désespoir. Notre nature nous gêne, on y étouffe, on veut en sortir, et notre âme, qui l'a comblée, en fait craquer les parois, comme une foule mal à l'aise dans une enceinte trop étroite. On se rue à plaisir dans l'effréné, dans le monstrueux. On met un masque sur son visage. On court, on crie, on hurle. On entre dans la folie et dans la sauvagerie. On rit de sa laideur. On se vautre dans l'ignoble. De même qu'épuisé de jeûne et saignant sous son cilice, le camaldule ressent des picotements de volupté à chacun des coups dont il se déchire le corps et s'évanouit presque d'amour quand il voit les cieux s'ouvrir sur sa tête avec les anges aux ailes blanches et les séraphins aux harpes d'or. Redevenu calme, l'homme ne se comprend plus lui-même. Son propre esprit lui fait peur et il s'épouvante de ses rêves. Il se demande pourquoi il a créé des djinns et des vampires. Où est-ce qu'il voudrait aller sur le dos des griffons? Dans quelle fièvre de la chair il a mis des ailes au phallus, et dans quelle heure d'angoisse il a rêvé l'enfer? Compris comme développement de l'essence intime de notre âme, comme surabondance de l'élément moral, le fantastique a sa place dans l'art. Les plus sceptiques et les plus railleurs s'en sont servis, et toute la faiblesse de quelques-uns n'a pas eu d'autre cause que de n'avoir pu le sentir et l'exprimer. Quant à celui qu'engendre de parti pris la fantaisie de l'artiste, par l'impossibilité où il se trouve à exprimer son idée sous une forme réelle, humaine, il dénote généralement peu d'étendue dans l'esprit et plus de pauvreté, d'imagination qu'on ne le pense de coutume. L'imagination, en effet, ne vit pas de chimères. Elle a son positif comme vous avez le vôtre. Elle se tourmente et se retourne pour l'enfanter et n'est heureuse qu'après lui avoir donné une existence réelle, palpable, durable, pondérable, indestructible. Alors il s'est pris d'un immense amour pour ces quelques hommes au-dessus des plus grands, plus forts que les plus forts, chez lesquels l'infini s'est miré comme se mire le ciel dans la mer. Mais à mesure qu'il contemplait leurs œuvres, elles s'agrandissaient à sa pensée, de même que s'élèvent les montagnes à mesure qu'on veut les gravir. Plus il croyait les comprendre, et plus il en était écrasé. L'éblouissement le saisissait. Il ne voulait pas croire que l'homme fût si grand. Savait-il ce qu'ils étaient? Sentait-il jusqu'au fond ce qu'ils faisaient eux-mêmes, ces immortels dont nous parlons? D'abord, les hasards de la vie n'arrivaient pas jusqu'à eux. Ils écrivaient leurs chants d'amour du fond des cachots. Ils faisaient leurs rimes en marchant à la mort. Ils chantaient encore dans leur agonie. La misère ne les rendait pas misérables. La servitude ne les asservissait pas. Ils auraient pu compter leur douleur au monde et l'amuser du spectacle de leur cœur. Mais non. Ils accomplissaient leur tâche avec une obstination divine. Ils en étaient si peu fiers ensuite. Ils en tiraient si peu d'orgueil pour eux-mêmes qu'il ne semble pas parfois qu'ils en aient compris l'étendue. Pareil à des flambeaux allumés qui ne savent pas qu'ils éclairent. Il admira tout ce que leur simplicité a de profondeur et comment le caractère général du monde apparaît dans l'expansion de leur personnalité, de sorte que c'est à la fois la vérité de ton et la vérité relative de la création entière, marquée de la main d'un homme sans qu'elle y perde rien de sa réalité et de son ensemble. Homère et Shakespeare ont compris dans leur cercle l'humanité et la nature. Tout homme ancien est dans le premier, l'homme moderne dans le second, tellement qu'on ne peut pas se figurer l'Antiquité sans Homère, ni les temps modernes sans Shakespeare. Ils ont été si vrais qu'ils sont devenus nécessaires. Ce qu'ils ont fait est leur œuvre, en même temps que celle de Dieu. Ils sont comme la conscience du monde, puisque tous ces éléments s'y trouvent rassemblés et qu'on peut les y saisir. Mais ce qui le charmait surtout chez ses pères de l'art, c'est la réunion de la passion et de la combinaison. Les poètes les plus exclusifs, les plus personnels, ont eu moins de chaleur, de vitalité et même de naïveté dans l'exposition du seul sentiment qui faisait leur grandeur, que ceux-là n'en ont montré dans les sentiments variés qu'ils ont reproduits. Tandis que les littératures tardives, avec toutes leurs ruses acquises et leurs artifices étudiés, n'ont rien fait qui approche de la savante harmonie qui se rencontre chez ses maîtres à son état le plus naturel et le plus complet, comme à sa source et à son principe. Il conclut de là que l'inspiration ne doit relever que d'elle seule, que les excitations extérieures trop souvent l'affaiblissent ou la dénaturent, qu'ainsi il faut être à jeun pour chanter la bouteille et nullement en colère pour peindre les fureurs d'Ajax. Il se rappela le temps où il se battait les flancs pour se donner l'amour en vue de faire des sonnets. Alors la suprême poésie, l'intelligence sans limite, la nature sur toutes ses faces, la passion dans tous ses cris, le cœur humain avec tous ses abîmes, s'allièrent en une synthèse immense dont il respectait chaque partie par amour de l'ensemble, sans vouloir ôter une seule larme des yeux humains, ni une seule feuille aux forêts. Il vit que tout ce qui élimine raccourcit, que tout ce qui choisit oublie, que tout ce qui taille détruit, que les poèmes épiques étaient moins poétiques que l'histoire, et que pour les romans historiques, par exemple, c'était un grand tort de vouloir l'être. Celui qui, selon une idée préconçue, et pour la loger convenablement quelque part, médite le passé sous d'autres couleurs qu'il n'est venu, refait des faits et rajuste des hommes, arrive à une œuvre fausse et sans vie. L'histoire est toujours là, qu'il écrase la hauteur de ses proportions, de toute la plénitude de son ensemble. Le seul moyen de l'égaler, ce serait d'atteindre ses exigences et de compléter ce qu'elle n'a pas dit. Mais que de science ne vaudrait-il pas pour être à même de comprendre l'époque? Que d'érudition première pour acquérir cette science? Que de sagacité pour l'appliquer! Quelle intelligence ensuite pour voir les choses telles qu'elles sont devenues! Quelle force innée pour les reproduire et quel goût surtout pour nous les faire entendre! Jules s'enrichissait ainsi de toutes les illusions qu'il perdait. À mesure que tombaient les barrières qu'il avait, entouré, sa vue découvrait des horizons nouveaux. Également écarté du savant qui s'arrête à l'observation du fait et du rhéteur qui ne songe qu'à l'embellir, il y avait pour lui un sentiment dans les choses mêmes, et les passions humaines suivaient en se développant des paraboles mathématiques. Quant à ses passions à lui, il les réduisait à des formules afin d'y voir plus clair, tandis que ses idées semblaient venir de son cœur tant elles avaient de chaleur et d'audace. Il porta dans les arts l'habitude qu'il avait contractée dans l'étude du monde et insensiblement dans l'analyse de lui-même de parodier ce qui lui plaisait davantage, de ravaler ce qu'il aimait le mieux, abaissant toutes les grandeurs et dénigrant toutes les beautés pour voir si elles se relèveront ensuite dans leur grandeur, leur beauté première. Quelquefois même, il niait complètement une œuvre afin de la mieux regarder sous un autre aspect. Mais de même que le velours en lambeaux est plus beau que de la toile neuve, et qu'un bonnet de papier sur la tête de l'Apollon ne la dégrade pas, la parodie ne peut rien détruire de ce qui est indestructible. Son couteau se casse contre les membres impérissables. Elle embellit plutôt ce qui est beau, en lui comparant ce qui est laid. La gloire, pour être complète, a donc besoin d'être outragée. Médiocre, en effet, serait pour moi le triomphe où il n'y aurait que d'insulteurs. N'est-ce pas dans ce même besoin que nous recherchons les diatribes de ceux qui nous ont chers et les caricatures de ceux que l'on admire, et que nous prenons plaisir à entendre médire de nous-mêmes afin de pouvoir de suite nous aduler davantage? Il plaignait l'admiration des gens faibles qui s'effraient de l'ironie. Et combien elle a peu de force en elle-même, celle qui s'en trouve diminuée. Il avait entendu dire que l'époque moderne était une époque prosaïque, les œuvres qui la pourraient peindre, devant se ressentir du sujet, s'y trouveraient aucune profondeur et n'en tiraient aucun éclat. Or, après en avoir adopté les idées courantes dans sa première jeunesse et l'avoir ensuite détesté lors de son retour à l'Antiquité, à la plastique, haïssant alors le frac noir par amour du pallium et la botte vernie à cause du cothurne, il se demanda cependant un jour si un demi-siècle où il y avait eu une révolution pour changer le monde et un héros pour le conquérir, où l'on avait vu des monarchies s'écrouler et des peuples naître, des religions finir et des dogmes commencer, des cadavres revenant de l'exil, des rois qui retournaient, et partout, comme un souffle de tempête qui précipitait les événements à leurs conséquences, lui heurtait les idées contre les faits, les philosophes contre les religions, tout cela allant, tourbillonnant, si tassé, si mêlé, si confus, que toutes les théories avaient eu leur jour, toutes les conceptions leur forme, la foi, le doute, l'enivrement et l'accablement, la corruption et la vertu, la trahison et l'héroïsme s'étant montrés tour à tour les uns en face des autres, souvent dans le même fait, chez le même peuple, quelquefois dans le même homme, de manière que rien n'offrait plus d'ensemble, tout en gardant une variété infinie. Il se demanda donc si une telle époque ne laissait pas plus de lassitude, de latitude et d'entêtement au penseur et plus de liberté à l'artiste, que la contemplation d'une société à figure plus arrêtée, où, tout étant limité, réglé, posé, l'homme se trouvait en même temps voire moins agi par lui-même et la Providence l'avoir moins fait agir. Mais de cette surabondance de matériaux résulte l'embarras de l'art. Il ne sait que faire du moment qui est, du moment ni comment le percevoir. Pour qu'il puisse le saisir et le manier, il faut qu'il le trouve fixé quelque part. L'histoire n'est belle que racontée, et les plus magnifiques palais ne valaient pas leur ruine. Dans son amour de la beauté, l'artiste parfois peut regretter ses frontispices abattus et toutes ses statues mutilées. Mais s'il savait, dans l'intérêt de sa pensée, combien le passé est de la nature de l'infini, et que plus cette perspective est longue, plus elle est belle, il serait tenté de bénir le vent qui déracine les pierres et le lierre qui se met à les recouvrir. Jules acquit donc la conviction qu'il y aura de magnifiques travaux d'art à exécuter sur le 19e siècle, quand on sera à distance, pas encore assez loin pour qu'on perde les détails, pas trop près non plus pour qu'il prédomine sur l'ensemble. On lui avait dit aussi, il l'avait lu dans les revues, que le caractère individuel s'étant considérablement mûri par suite des préoccupations politiques de la nation, les rangs s'étaient nivelés et les conditions rapprochées, et que la comédie était devenue une chose impossible, une forme de l'art entièrement perdue. Eh bien, il se persuada du contraire à la longue. Il est vrai, le sens comique lui était moins naturel que celui du tragique, et dans la littérature comme dans le monde, il confondait souvent les genres. Il alla à Paris, il assista au cours de la Sorbonne, et sa conviction récente n'en fut pas détruite. En entendant encore des professeurs donner des règles du goût et des gens qui ne savent pas écrire 4 lignes enseigner comment il aurait fallu composer un livre, il s'amusa même davantage et rit de meilleur cœur qu'en voyant un singe raser un homme ou un caniche habillé en soldat faire la charge en 12 temps. Les journaux lui semblaient aussi une source inépuisable de facéties, avec leur dévouement au pays et leur amour de la morale publique, la lourdeur de leur style par-dessus la futilité de leur pensée, hôte de plomb qui renferme du sable. Les plus grands, les plus sérieux, les plus majestueux, les plus rogues étaient selon lui les meilleurs, de sorte qu'il n'y avait guère que le charivari et le tintamarre qui ne le fissent plus rire. Il vit à la bourse que la race des Turcarets n'est pas éteinte. À l'école de médecine, que pour être sans perruque, les petits-fils de Diafoirus n'ont pas dégénéré. Au palais, que les bruits d'oisons se rencontrent encore. L'extérieur comique, en effet, a diminué, mais le fond semble avoir grandi à raison inverse. Cela est devenu plus difficile à saisir, plus complexe, plus délicat, plus intime. Soit, par exemple, l'idée d'un gouvernement constitutionnel n'a-t-elle pas en elle-même quelque chose de tout à fait attique et d'essentiellement fait pour rire? Le système ou la pensée immuable, l'idée monarchique, si vous aimez mieux, reparaissent continuellement sous les diverses figures de chaque ministère. Ne fait-elle pas involontairement penser à ces pièces à tiroir où le même personnage vient tour à tour déguisé en paysan, en cocher de fiacre, en militaire, en cuisinier, faisant alternativement le doucereux, le terrible, l'ingénu, afin d'extorquer la dot de la pauvre fille ou de lui ravir son honneur. Il alla à l'opéra, il y vit des processions, des croix, des autels, y entendit jouer de l'orgue et chanter des psaumes. Il alla dans les églises, on y exécutait des contredanses, et les mêmes gens qu'il avait vus la veille au soir sur la scène, habillés en prêtre ou en moine, chantant alors avec une expression appropriée à leur costume, étaient encore là, qui continuaient leur métier. Mais maintenant, l'air sémillant et gaillard, frisé en papillote, ganté de blanc, avec des manchettes et une chaîne d'or. En revanche, il retrouvait le soir à dîner en ville ceux qu'il avait vus le matin, desservant la messe en habits pontificaux, qui buvaient et mangeaient le bon appétit, causaient avec les dames et faisaient les agréables. « Oh, Molière, Molière !» s'écria-t-il dans son âme, en admirant la moralité des procureurs du roi et le civisme des hommes d'État. On l'invita à faire partie d'une assemblée philanthropique. Il s'y rendit. D'abord, chacun se poussa tellement à la porte afin d'avoir la meilleure place auprès du poète qu'il faillit être étouffé en entrant. Il s'agissait de trouver les moyens d'améliorer l'homme intérieur. On commença par se disputer, si bien pour savoir qui aurait le premier et la parole, que chacun finit par hurler pour se faire entendre, et que Jules s'en alla de peur des coups. Il assista d'autres jours à la réunion solennelle d'une société de tempérance. La réunion eut lieu à 9 heures du soir, après un grand dîner qu'avait donné le président. Presque tous les membres arrivèrent ivres et déclarèrent qu'ils permettraient à leurs adeptes tout au plus le thé et la limonade. Les plus gris furent les plus éloquents. Les couleurs de l'ivresse se peignaient sur leurs visages. Quelques-uns même en vomirent. Il fit la connaissance d'un jeune écrivain catholique dont les livres de morale dogmatique étaient donnés en prix dans les couvents et dont les poésies religieuses étaient recommandées par les confesseurs à leurs belles pécheresses. Jules le rencontra chez les filles. « Ah ah, je vous y prends, l'homme de bien !» lui dit-il. « Comment ?» répondit celui-ci. « Rien de plus simple. C'est avec l'argent que me rapportent mes amours éthérées que je paye les catins, et en prêchant le carême, je dîne chez Véfour. » Quant aux jaloux, aux fripons, aux vaniteux, ils sont trop nombreux pour qu'on y prenne garde, et d'ailleurs tiennent trop à la nature humaine pour qu'on les puisse reporter plus spécialement sur une époque que sur une autre. Mais à ne faire attention qu'à l'élément grotesque d'une société et qu'au ridicule dont elle est spécialement douée, il en découvrit tellement dans la nôtre qu'il en arriva, par rapport au genre comique, aux mêmes conclusions qu'il avait trouvées quant au tragique. Ainsi, il avait eu d'abord envie de s'amuser avec les Saint-Simoniens, mais les fourriéristes l'emportèrent, de même que M. Cousin lui semblait très drôle, avant qu'il n'ait lu Pierre Leroux. Qu'est-ce qui fera rire, en effet, quand tout serait risible? Il est vraiment pénible pour un auteur de penser que quelques bêtises qu'il fasse débiter à ses bouffons, les gens graves en diront toujours de plus fortes. On ne peut pas faire la charge de la charge elle-même. Où faudra-t-il puiser matière à satire? Qui nous l'offrira? Sera-ce l'université par hasard? Mais les jésuites réclameront. Les orateurs patriotes peut-être, mais les journalistes vertueux de leur cette guerre. Les savants? Et les artistes, bon Dieu, l'orgueil des ténors sans doute. Mais celui des danseurs, miséricorde. Il songea bien encore à l'académie, composée des grands seigneurs de la bourgeoisie, de ministres destitués, de pères podagres, de commissaires de police enrichis, d'écrivains qui ont l'esprit de ne rien écrire, et de quelques critiques qui en ont eu le malheur, où l'on recevra bientôt des poêliers fumistes, des notaires et des agents de change. Hélas, ceux qui l'attaquent n'ont-ils pas bien plus d'outrecuidance, et ceux qui veulent y entrer bien plus de platitude? Il entendit dans un salon un homme réciter des vers. Les vers étaient médiocres et les mains du poète étaient fort sales. « Quel est ce Rustaud ? » demanda-t-il à son voisin. « N'en dites pas de mal, c'est un grand homme. »« En quoi ? » ?»« C'est un cordonnier qui fait des vers. » »« Eh bien ?»« Mais c'est là toute la merveille, parbleu. Voilà son éditeur qui est à côté de lui et qui vient de le présenter à la maîtresse de la maison. Il le mène partout. » C'est son bien, sa bête, sa chose. Il a grand soin de lui recommander de venir en casquette et de garder ses bains sales, afin qu'on voit bien qu'il est prolétaire et qu'il fait des chaussures. Il a même engagé à coudre son cahier de poésie avec du lignol. J'ai vu aussi qu'il lui conseillait de mettre quelques fautes de français aux plus beaux endroits, afin qu'on les en admirât davantage. Oh, il est à la mode, lui et son poète. On l'invite partout, voilà comment il se pousse. Et quand il aura traîné ce pauvre homme de salon en salon, et qu'il ne sera plus qu'un fer. Ben, il le plantera là, tout net, et il faudra que le cordonnier se remette un coup de débotte, pourvu que la vanité, la misère et le désespoir, au dernier lieu, ne l'aient pas fait crever d'ici là. Oh, ce qui arrivera à coup sûr. Quel est donc ce monsieur qui parle si bien? Demanda Jules à son voisin de droite en lui désignant son voisin de gauche. Ce monsieur est un helléniste, lui répondit-on. Qu'il ne conçoit pas que l'on puisse écrire un article de mode ou réciter une fable si l'on sait à fond au moins deux langues anciennes et une demi-douzaine de modernes. Il a fait un roman de mœurs bourré d'érudition que personne n'a lu, mais il s'en console en relevant les anachronismes de ce qu'on lit et en riant sur le compte de leurs auteurs qui ont employé une foule de mots dont ils ne connaissaient pas l'étymologie ou la racine. L'homme obligeant qui donnait ce renseignement à Jules était un jeune dandy, jaloux du bruit que faisait la prolétaire qui captait en ce moment l'admiration des dames, et non moins envieux de la science du savant qui quelquefois l'humiliait devant les hommes. Et moi-même, se demanda Jules, après avoir cherché au fond de sa conscience la cause des répulsions différentes qu'il portait à chacun de tous ces personnages, est-ce que je ne serais pas bien aise d'être à la place du cordonnier et d'entendre en mon honneur ce doux murmure qui circule? Est-ce que je vise autre chose après tout? Ces vers ne vont pas avoir peut-être paru mauvais que parce que j'aurais préféré qu'on écoutât les miens. Ce brave homme qui les décriait avait beaucoup de sagacité, et je serais bien heureux si j'en savais autant que lui. Ce jeune femme même n'avait nullement tort. Il faut convenir aussi qu'il met sa cravate mieux que moi et que sa toilette est irréprochable. Ainsi vivait Jules, fréquentant davantage les hommes et de moins en moins leur ouvrant son cœur. Son isolement intime était relatif à la foule qui l'assiégeait, résultat multiple de l'expérience, de l'orgueil blessé, du parti pris et des circonstances extérieures. Deux choses arrivent. Ou l'homme s'absorbe dans la société, en prend les idées et les passions, et disparaît alors dans la couleur commune, ou bien il se replie sur lui-même, en lui-même, et rien n'en sort plus. Des différences profondes s'établissent entre lui et ses semblables. Il y a des abîmes rien que dans la manière de comprendre une même idée. Il vit seul, rêve seul, souffre seul. Personne ne s'associe à sa joie. Il n'y a pas de caresse pour son amour, ni de consolation pour sa douleur. Son âme est comme une constellation égarée que le hasard pousserait dans l'espace. C'est pour cela qu'on voit tant d'amitié chez les enfants, que l'on en rencontre déjà moins dans la jeunesse, presque pas chez les hommes mûrs, et point du tout entre les vieillards. Combien de goûts, de pensées, de rêves et de plaisirs avons-nous eu de commun avec une foule de gens qui sont perdus pour nous? Ils ont pensé comme nous, cependant, senti comme nous. Nous vivions de leur vie, ils vivaient de la nôtre. Mais les liens qui semblaient unir pour toujours se sont si bien dénoués d'eux-mêmes que l'on s'est oublié complètement et que l'on ne se reverra jamais. Il est un âge où on aime tous les vins, où l'on adore toutes les femmes. Alors, assis devant la vie comme autour d'un festin, on chante tous ensemble dans la joie de son cœur. Les convives ont la même gaieté, la même ivresse. Mais une heure arrive où chacun prend sa bouteille, choisit sa femme et s'enfuit chez lui. Puis d'autres viennent boire aux mêmes illusions et se griser des mêmes espérances. Si des attachements du passé nous apparaissaient tout à coup en face de l'isolement de l'heure présente, nous aurions plus horreur des autres que de nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous déplorerions davantage de l'abandon de tout ce qui nous a quittés ou de la dureté que nous avons mise à n'en plus vouloir? Autrefois, Jules avait beaucoup d'amis avec lesquels il causait littérature. À peine maintenant, s'il pouvait trouver quelqu'un qui fut de son avis pendant 5 minutes. Il n'avait pas le courage d'exposer ses idées devant des gens qui ne les partageaient pas. Et quant à ceux qui les entendaient, il aurait eu encore tant de choses à leur ajouter qu'il s'abstenait d'ouvrir la bouche. La discussion lui était devenue impossible. Il n'y avait à son usage de mode de transmission psychologique que l'expansion, la communication directe, l'inspiration simultanée. Il voulait que ce qui sortait de lui-même et que ce qui tâchait d'y entrer arrivât à la manière du son, qui s'accepte sans qu'on le raisonne, que l'on perçoive et qu'il se produit. La justesse d'une note ne se critique pas, on ouvre l'oreille et l'on a de suite conscience. Plus il allait, moins il découvrait chez les autres de rapport avec lui-même. Lorsqu'il dînait au restaurant avec un ami, l'ami choisissait toujours des plats qui n'étaient point de son goût et voulait du Bordeaux lorsqu'il aurait désiré du Bourgogne. La coupe de sa robe de chambre et la couleur des étoffes dont il se couvrait étaient généralement blâmées de tout le monde. S'il voulait faire un cadeau à quelqu'un, il choisissait toujours des choses charmantes qui ne plaisaient jamais. Il n'allait plus dans aucun théâtre parce que les sifflets l'empêchaient de goûter les plus beaux morceaux et qu'il souffrait trop en entendant certains applaudissements. Il évitait plutôt la contradiction qui ne la cherchait, mais n'étant de l'opinion de personne, il ne disait pas la sienne. Or, on l'accusait d'hypocrisie parce qu'il voulait être poli sans consentir à être vif. Admirait-il un tableau? Il trouvait des gens qui se pâmaient devant la manière dont le peintre avait imité les boutons de l'habit. Si c'était un concert de Beethoven, il en voyait qui brillaient ou qui trépignaient à la première note. Quand il parlait de Shakespeare, les prétendus classiques lui répondaient par un rire de pitié et les soi-disant romantiques par des cris inarticulés. S'il avouait qu'il aimait à lire La Pucelle, on le regardait comme un libertin, ou bien les amateurs lui citaient à l'instant même le tableau de l'amour conjugal ou le portier des Chartreux. Quelquefois, cependant, alléché par des apparences de sympathie, il se laissait aller à développer son opinion ou à épandre son sentiment. Mais soudain, il rencontrait, chez ceux qu'il avait cru le comprendre, un entendement si borné que, quoique parti du même point, il s'en trouvait tout à coup à des distances infinies et qu'il continuait à parler pour lui seul. Il s'interdit donc de jamais parler d'art et de littérature. Un jour, il eut le malheur de tomber au milieu d'un cercle d'historiens qui dissertaient de la Révolution française et de ses grands hommes. L'un regardait Robespierre comme un tigre altéré de sang, un autre comme le plus doux législateur qu'on ait vu. La montagne était traitée de phalange sacrée ou de repère de brigands. Le troisième enfin bénit la Révolution dans son principe et dans ses résultats, tout en déplorant les excès qu'il avait souillés. Jules, dès lors, se priva de parler d'histoire.